c'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.
L'image, l'apparence et la quête de l'éternelle jeunesse prend des proportions considérables ces dernières années. Et c'est la chirurgie esthétique qui est l'un des moyens qui permet d'atteindre au mieux ou d'approcher cet objectif. Alors, pourtant, c'est bien la seule chirurgie qui crée des polémiques, qui fait débat. Pourquoi faudrait-il être pour ou contre la chirurgie esthétique? Pourquoi soulève-t-elle tant d'émoi? Faudrait-il l'interdire? Faut-il au contraire user de toutes nos avancées technologiques pour en profiter? La chirurgie esthétique est-elle un pourvoyeur de bien-être, de bonheur, ou bien n'est-elle qu'un leurre? Elle est sur le grill ce matin dans C'est Nouveau, ça m'intéresse. Nous parlons d'un ouvrage qui vient de paraître, Chirurgie esthétique pour ou contre, paru aux éditions Flammarion, et j'ai grand plaisir de recevoir son auteur. Il s'agit de Dr Vladimir Mitz. Bonjour Dr Vladimir Mitz.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, et puis on va le dire aussi pour nos auditeurs, mais qui le savent déjà, on vous retrouve une semaine sur deux, le dimanche matin, dans Ça pourrait vous plaire, une émission sur l'art, l'esthétique, la beauté. On va en parler dans un instant, hein, de votre définition de la beauté. Mais avant, docteur, pourquoi ce titre? Pourquoi faut-il être pour ou contre la chirurgie esthétique? C'est comme si vous disiez, est-ce un bien ou un mal de pratiquer la chirurgie esthétique?
Oui, vous avez bien perçu la problématique, Léa, parce que ma spécialité, une de mes spécialités, donc la chirurgie esthétique, est, comme vous le disiez, justement sur le grill. Parce qu'on se dit, modifier son corps, modifier son apparence, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui va contre, je dirais, ce que la nature nous a donné, ou des puissances supérieures nous ont construit d'une certaine façon. On est à un moment d'écologie, donc on voudrait rester aussi naturel que possible, et donc la chirurgie esthétique paraît s'inscrire contre cette tendance. Mais voilà, comme le dit Simone Béramian, qui est l'attachée de presse de Flammarion, on vit un moment d'enthousiasme de vivre. Même si c'est un peu difficile, il fait gris, l'enthousiasme de la vie nous pousse à essayer d'être au mieux dans notre forme. Il y a donc une quête qui est éternelle et qui va subir des bons et puis des creux. Et la chirurgie esthétique, elle s'inscrit dans une quête qui est non pas de se changer, mais de modifier un complexe qui nous entrave, qui nous blesse, qui nous gêne au quotidien.
Et pourtant, il y a des gens qui se prononcent toujours contre. Hein. On se demande, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ça soulève ces émois, ces polémiques? Le mot réparateur, hein, la chirurgie réparatrice, ça passe mieux. Mais esthétique, comme si finalement être beau, c'était un péché.
Alors justement, ce livre, il s'inscrit dans un combat qui est de montrer que la chirurgie esthétique, elle est réparatrice. Elle est réparatrice de quelque chose qui est plus subtil qu'il n'y paraît, ouais. Qui est une sorte de fissure que l'on a, fissure qui devient complexe au niveau psychologique. Et vivre avec une fissure, c'est jamais agréable. Je parle peut-être à toutes ces dames et à ces messieurs qui sont dans leur appartement et qui voient s'il y a une éraillure dans leur cuisine ou un plafond qui commence à avoir quelque chose qui se décolle. Ils se disent, ah, je peux pas supporter ça, il va falloir que je fasse des travaux. Eh bien, dans notre domaine, c'est pareil. Un autre élément, c'est que c'est une chirurgie qu'on perçoit très différemment avant 40 ans et après 40 ans. Parce qu'avant 40 ans, on est quand même très heureux de vivre. C'est un moment de plénitude. Et puis quand arrivent les premières petites griffures du temps, les petites rides, les petits plis, on a tendance à aller maintenant beaucoup vers la médecine esthétique, qui a fait des progrès incroyables. Vous avez fait de nombreuses émissions. Et ce progrès est lié surtout à deux drogues, si j'ose dire. Le Botox, qui permet d'enlever les rides du front et autour des yeux. Et l'acide hyaluronique, qui permet de combler les fissures, un peu comme un ouvrier italien. S'il y a une fissure, il va mettre un peu de plâtre à l'intérieur avant de faire la peinture.
Et ça marche assez bien.
Et ça marche très
ça
bien.
Ça vous fait pas peur, ça, à vous, les chirurgiens esthétiques?
Nous le faisons. Oui. Nous nous sommes tous mis à faire aussi de la médecine esthétique.
C'est un substitut aujourd'hui ou pas?
C'est pas un substitut, mais qui mieux que nous sait exactement à quelle profondeur agir, où se trouvent les muscles? Oui. Le chirurgien esthétique est un chirurgien plasticien réparateur qui connaît parfaitement l'anatomie. Et donc, on est vraiment à même de délivrer le produit là où il doit être. Et puis, à côté de ça, la chirurgie esthétique, eh bien, ce qui intéresse, par exemple, les internautes, et c'est ce que j'ai mentionné dans mon livre, c'est les ratés. Parce que les ratés, on a l'impression que c'est un peu une punition divine. Ah, vous avez voulu faire quelque chose, eh bien,
blanc.
Vous serez donc puni parce que vous avez voulu descendre, vous voulez aller au paradis et on vous emmène aux enfers.
Oui, oui, c'est un petit peu ça la raison des contres, hein, parce qu'on se dit, oh non, je fais quelque chose qui est contre nature, donc je vais être puni. Il y a aussi cet aspect-là. Vous parlez dans votre livre, docteur, aussi un peu de votre vie, hein, de votre parcours, et vous dites la raison pour laquelle vous avez choisi cette chirurgie précisément. Dites-nous pourquoi.
Mais parce que moi, j'ai commencé par faire des études de neurochirurgie, parce que j'étais passionné par le cerveau. Ouais. Et puis, on m'a dit, tu pourras jamais vraiment avoir un poste en clinique, en hôpital, à cause de tes origines. Ça a été vraiment une sorte de diktat. Mmh. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui pouvait correspondre à mon aspiration. Et quand j'étais déjà un petit garçon, j'étais fasciné par l'idée de l'immortalité, comme beaucoup, de vivre très longtemps. De tous ces livres de science-fiction, on pouvait échanger de corps, c'était un peu comme le clonage. Et comme j'ai aussi un tempérament intéressé par l'art, je me suis dit, quelle est la spécialité qui mélange un petit peu ces deux disciplines? Eh bien, c'est la chirurgie réparatrice et esthétique, parce que toutes les deux visent à utiliser des techniques très sophistiquées en complexe évolution d'ailleurs, et qui me permettront peut-être de m'exprimer. Et c'est vrai que j'ai été innovant et je continue. Et par exemple, une des dernières opérations que j'ai mis au point, c'est une opération de rajeunissement chez la femme jeune, une opération chirurgicale, le microlift, qui consiste à faire des petits liftings très légers qui n'impliquent pas de grandes souffrances et qui s'opposent un peu à la médecine esthétique où on utilise des fils tenseurs, espèce de porte-jartelle qu'on met sous la peau, et qui, quand on se penche un petit peu en avant, il y a les cordes que l'on sent et on pourrait presque jouer de la guitare sur les joues.
Ah oui, c'est pas sympa.
Voilà. Et donc, il fallait trouver une technique. Ouais. Eh bien, écoutez, j'y m'y suis attelé, je l'ai mis au point, je la publie. Et donc, on a une possibilité incroyable d'innovation dans mon domaine. C'est aussi dans mon domaine qu'il y a eu des premières mondiales françaises. Mm-hmm. Il y a eu l'invention de la liposuction, il y a eu la chirurgie crânio-faciale. Mm-hmm. Et puis, il n'y a pas très longtemps, les premières greffes de visage à partir d'un donneur qui est décédé.
Oui, on sent toute votre passion, hein, pour en exerçant cette médecine. C'est une médecine, bien sûr, cette chirurgie esthétique. Est-ce que le chirurgien esthétique que vous êtes peut être contre, parfois, cette chirurgie esthétique?
Mais plus que ça, Léa, nous avons comme limite l'impossible demande d'une patiente qui ne sera jamais satisfaite. Et donc, la noblesse de notre métier, c'est de savoir dire non. Non, quand nous pensons que nous n'allons pas rendre service ou que nous n'allons pas remplir le contrat moral que nous demande la patiente, qui est parfois de faire des techniques que nous jugeons complexes pour un résultat peu satisfaisant. Le bénéfice, risque et bénéfice n'est pas bon et nous devons dire non.
Ça, c'est votre seul jugement qui prend la décision.
Pas forcément, parce que des fois, on ne sait pas trop. Alors, on fait ce qu'on appelle un staff. Et moi, avec mes assistants, tous ceux que j'ai formés, nous nous réunissons gratuitement à la clinique du Louvre pour examiner la patiente. Chacun donne son avis de façon à ce que nous ayons un consensus sur la bonne marche à suivre.
Nous sommes en compagnie du docteur Vladimir Mitz pour son livre qui vient de paraître, Chirurgie esthétique pour ou contre, aux éditions Flammarion. On en parle dans un instant. Nous parlons de la chirurgie esthétique ce matin dans C'est Nouveau, ça m'intéresse, à travers un ouvrage qui vient de paraître, Chirurgie esthétique pour ou contre, aux éditions Flammarion, et nous sommes en compagnie de son auteur. Il s'agit de docteur Vladimir Mitz. Alors docteur, vous nous avez dit que parfois, le chirurgien que vous êtes, avec tout l'enthousiasme que vous avez et tout ce plaisir aussi que vous avez dans la recherche en chirurgie esthétique, les possibilités qu'il y a, parfois vous êtes contre. Vous êtes contre quand il y a des abus, parce qu'il y a parfois des abus qui sont demandés par vos patients.
Oui, cela conduit obligatoirement à ce qu'on appelle un raté. Alors, pour l'illustrer, dans mon livre, j'ai pris 3 ratés. Oui. J'ai pris le cas de Michael Jackson, celui d'une actrice qui s'était fait gonfler les lèvres il y a bien longtemps, et celui du cas de Orlan, qui est une artiste qui est transhumaniste, c'est la première, c'est-à-dire qui essaye de transformer son corps et son visage en disant que mon corps, c'est ma toile,
d'art.
C'est ça qui est l'œuvre et je construis moi-même l'œuvre à partir de mon corps.
Elle a mis notamment des pommettes
au-dessus des sourcils pour lui donner comme un front de mathématicienne. Mais c'est une grande artiste, c'est une photographe très intelligente. Mais je vais revenir sur le cas de Michael Jackson qui est quand même très intéressant. Michael Jackson est un artiste absolument génial qui un jour a été victime d'une brûlure. Donc il est allé à l'hôpital et il y a un chirurgien, plasticien qui l'a rencontré, qui l'a soigné. Ils ont tissé des liens d'amitié. Et puis petit à petit, il s'est créé entre eux une complicité et à un moment donné, Michael Jackson a demandé à ce que son nez qui était négroïde soit un peu affiné. Donc ce chirurgien l'a fait, bien d'ailleurs. Mmh. Et puis après, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que Michael Jackson avait une maladie de peau et ses tissus ont commencé à rétrécir un peu au niveau du visage. Et ce qui fait que ce chirurgien a dû l'opérer à de multiples reprises, non pas pour le rendre plus beau, pour le changer, mais c'était à chaque fois d'essayer de rattraper une complication qui se passait, et cela a abouti à ce petit nez cri-kiki, alors que Michael Jackson est un artiste très intelligent et avec un talent immense. Mmh. Et on a donc toujours pensé qu'il a fait ce qu'on appelle le syndrome du trop, c'est-à-dire qu'il voulait de plus en plus réduire son nez. Et cela existe en réalité. Moi, il m'est arrivé à deux reprises d'avoir des patientes qui voulaient avoir des tout petits nez de plus en plus petits, alors que je leur faisais un nez qui était normal. Et on appelle ces patients des dysmorphophobes. Ce sont des patients qui ont un TOC, un trouble de comportemental, qui fait qu'ils ne seront jamais satisfaits d'un résultat obtenu et qu'ils iront toujours chercher un peu plus loin, au risque de se faire mal et d'être très mal perçu, mais ils s'en fichent parce que eux, ils suivent une voie intérieure qui les conduit comme dans une implosion. C'est tout à l'intérieur, paraître à l'extérieur, et en fait, tout intérieur. Et ce sont des gens qui peuvent être dangereux. Ils peuvent être paranoïaques. Et chaque année, figurez-vous qu'il y a un chirurgien esthétique qui est blessé ou tué par un patient paranoïaque. Donc nous avons un métier dangereux. Et il faut savoir dire non.
Là, il faut l'intervention du psy, dans ce cas-là.
Il faut l'intervention du psy, qui est très utile. Mais parfois, nous devrions être plus à même de reconnaître un patient qui est paranoïaque ou dysmorphophobe. Et ce n'est pas évident au cours de la première consultation. Mm-hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on conseille en France qu'il y ait au moins deux consultations avec son chirurgien. D'une part, pour que le patient soit mieux informé, et d'autre part, pour que nous, on ait une meilleure connaissance du patient.
Et que dans le laps de temps, il peut y avoir une réflexion des deux côtés.
Absolument.
Alors, vous disiez, les abus de pas mènent au raté. J'aimerais avoir la bonne définition d'un raté. Qu'est-ce qu'un raté pour un chirurgien esthétique ? C'est peut-être pas la même définition que pour le patient lui-même.
Oui, vous avez raison, Léa, il y a deux ratés. Il y a le raté que ressent le patient parce qu'il se projetait une image dont il avait envie et le chirurgien n'y est pas arrivé, soit parce qu'il a été malhabile, ce qui est rare en France, soit parce qu'il y a eu des phénomènes de cicatrisation et d'infection qui ont détourné en quelque sorte le résultat. Un peu comme si vous alliez à New York et on vous dit « bah non, il faut s'arrêter à la Guadeloupe parce qu'on a un problème de moteur ». Le pilote de l'avion, on va s'arranger avec la compagnie pour vous conduire de la Guadeloupe à New York. Et nous, chirurgiens, on doit faire la même chose. Si le patient ressent une insuffisance de résultats qui est légitime, nous devons, et gratuitement, le prendre en charge pour le réparer. Il y a un deuxième raté qui est plus subtil. C'est que le patient pense que c'est pas si mal, mais c'est nous, comme nous sommes des perfectionnistes, nous disons « tiens, là, j'aurais peut-être dû faire un sein un peu plus gros de ce côté, avoir une meilleure symétrie ou mettre des implants qui soient un peu différents pour donner une autre allure. » Et donc ce raté-là, c'est un raté que le patient ne ressent pas forcément. D'ailleurs, le patient peut être très sourieux, très souriant et très heureux. Ben, nous, on est très contents.
Oui.
Mais à l'intérieur de nous, on se dit « je peux encore progresser ».
Oui, mais là, vous ne faites rien puisque le patient est satisfait, non ?
Ah, bien sûr. Là, on reste silencieux et en même temps, on a une petite pointe vis-à-vis de nous-mêmes en disant « Ah là là, tu peux t'améliorer ».
Mais la plus grande satisfaction quand même pour le chirurgien esthétique, c'est de rendre heureux son patient.
Voilà, la définition de la chirurgie esthétique, ce n'est pas une chirurgie du bonheur, c'est une chirurgie qui réconcilie le patient avec son image. C'est un peu comme si vous regardiez dans un appareil photo et quand vous n'êtes pas heureux de votre corps, vous faites mal la mise au point. C'est-à-dire que c'est flou, vous avez une image un peu floue de vous-même et vous projetez une autre image. Et ben nous, notre talent, c'est d'essayer de faire coïncider ce désir et la réalité.
Alors là, dans ce cas-là, la notion de beauté n'a plus de sens finalement, puisque la beauté pour vous n'est pas celle du patient. Enfin, comment vous définissez-vous la beauté ?
C'est une question éternelle. Beaucoup de mes confrères et beaucoup d'artistes ont essayé d'utiliser les règles du nombre d'or.
Oui, qui vous est, en parlez. Hein.
Dont Léonard de Vinci ou d'autres grands, ou Dürer, avaient essayé de définir les canons, si j'ose dire. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé, une fois, c'était au cours d'une consultation. Il y avait des gens de la télévision qui étaient là avec leur caméra et ils souhaitaient... qu'une patiente puisse être interviewée en direct. Et au cours de la consultation, j'ai vu arriver une très jolie femme, à mon avis.
Oui.
Je me suis tourné vers le caméraman et je lui ai dit « Elle !» Il m'a dit « Chut, silence
oui. !»
Non. Bon, j'étais un peu... On n'avait pas le temps de trop discuter. Et puis, deux, trois patientes après, j'en ai vu une autre qui est arrivée, que je trouvais qui n'était pas banale. Il m'a dit « Voilà, ça sera elle !» Et donc, après que ma consultation ait été finie, je lui dis « Mais pourquoi elle ?» Elle me dit « Parce qu'elle attire merveilleusement la lumière. » Et si vous voulez, la beauté, c'est quelque chose que nous percevons, que la patiente perçoit quand elle se regarde dans son miroir avec son propre narcissisme. Mais il y a des grands mystères. La beauté est individuelle. Elle témoigne aussi de ce que vous avez à l'intérieur qui sort à l'extérieur. Et il y a aussi une luminosité que vous dégagez, une sorte d'aura qui est très personnelle et que j'invite chacun de nos auditeurs à cultiver du mieux possible, avec tous les moyens possibles et pas forcément la chirurgie esthétique.
Et oui, tout à l'heure, vous parliez de symétrie. Vous disiez, nous, on est des perfectionnistes, on voit qu'un sein peut-être est un petit peu plus petit que l'autre. Mais finalement, la beauté, c'est peut-être la symétrie.
Tout à fait. Il y a aussi, oui, tout à fait. Il y a aussi ces petites différences qui attirent le regard et qu'on peut trouver charmant, et ça ne fait que 4000 ans que ça existe, puisque c'était déjà le cas dans Crète, c'était déjà le cas en Judée, et que David a été attiré par Bethsabée. Il dit pas pour quelle raison, mais finalement, il n'en pouvait plus d'amour pour elle, et dans les représentations qu'on a, ce n'est plus une jeune femme, elle avait des enfants. Donc c'est ça les mystères de l'amour.
C'est le mystère, hein, mais c'est aussi le mystère de la chirurgie esthétique, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, vous faites une opération, vous n'êtes pas forcément satisfait, mais le patient est satisfait, allez savoir pourquoi. Ça, c'est encore une part de mystère, hein, qui fait que votre domaine est difficile à appréhender quand même.
Oui, c'est une partie de notre métier qui a fort à faire avec la psychologie. Mmh. Et nous devons vraiment aussi nous appesantir au cours de la consultation sur l'histoire de chaque patient qui est individuel. Donc nous avons des consultations qui sont longues. D'une part, nous devons écouter les patients. La règle du chirurgien esthétique, c'est tu te tais et t'écoutes avant tout.
Et oui, mais là, vous savez, on est soit psy, soit chirurgien esthétique. On est rarement les deux. Et c'est là la difficulté peut-être aussi de ce domaine.
Oui, c'est l'expérience qui conduit à savoir comment rester silencieux.
Alors le psy, on en a aussi besoin quand il s'agit de limites ou d'abus. Je parle notamment, et vous en parlez dans votre livre, des adolescents. Aujourd'hui, on voit ce phénomène de plus en plus courant. Il y a de tout jeunes gens et jeunes filles qui viennent voir les chirurgiens esthétiques. Comment se fait-il ?
Alors, cela fait partie dans mon livre d'un combat que je livre aussi depuis longtemps, qui est il faut écouter les adolescents parce que le monde a changé. Un adolescent qui n'est pas satisfait de son nez, de ses seins, de sa silhouette, on ne peut pas lui dire « écoute, c'est rien, attends d'avoir des enfants, tu vas voir. Oui, ton nez, c'est un nez de famille, tu devrais le garder. Après tout, c'est notre dynastie, il faut le garder, notre patrimoine. » Ou un garçon, parfois il y a des garçons qui ont des seins, par exemple, ce qui est totalement insupportable, ça s'appelle une gynécomastie, et ça arrive dès l'âge de 13-14 ans. Donc moi, ma bataille a été de dire, écoute, quand je vois des adolescents, c'est de ne pas leur dire « ce n'est pas possible parce que tu n'es pas majeur ». On les écoute, et puis je leur demande de revenir avec leurs parents, père, mère, ou si possible les deux en même temps, parfois un samedi, parce que c'est plus facile pour eux, de façon à avoir ce que j'appelle le consensus familial. Et c'est à moi d'expliquer aux patients et à ses parents quels peuvent être leurs points d'accord. Il m'est arrivé parfois de voir 3 ou 4 fois une jeune fille avec ses parents, elle voulait des prothèses mammaires, les parents y étaient totalement opposés, et finalement, ils ont compris, la jeune fille s'est fait opérer, et tout le monde est heureux, et tout le monde a oublié comment elle était avant. Donc les adolescents, il faut les écouter, parce qu'ils sont au courant, ils ont des moyens de communication immenses, ils sont intéressés par Internet beaucoup plus vite que les parents, et ils se disent, si c'est possible, pourquoi pas moi ?
C'est-à-dire que la visite chez le chirurgien esthétique, c'est toujours l'expression d'un mal-être. Alors, c'est à vous de voir si c'est un mal-être objectif ou subjectif.
Tout à fait. Ça peut être simplement un conflit mère-fille. Nous savons, avec les psychologues et les psychiatres, que cela existe. Mmh. Et donc, il faut démêler ces fils. Mais l'adolescent est quelqu'un de très volontaire. En plus, qui se trouve devant un problème épineux parce que la chirurgie esthétique, elle est payante. Donc, il faudra payer. Donc, eux ne peuvent pas payer. Ou alors, il faut qu'ils fassent beaucoup de jobs l'été. Et donc, il faut que ce soit les parents qui acceptent. Donc, tout cela pose des pas mal de difficultés humaines et financières qu'il faut résoudre en commun.
Alors, comment prendre sa décision ? Là, je me mets à la place des auditeurs, des auditrices. Comment prendre la bonne décision ? Bien sûr, en allant voir le médecin. Mais ça aussi, c'est déjà un acte un peu difficile en amont. À partir de quand doit-on se dire « je vais aller voir un chirurgien esthétique » ?
Il y a deux actes très importants à faire pour les parents. Le premier, c'est d'écouter leur enfant, les laisser parler, qu'ils expriment un peu leur complexe. Et le deuxième, c'est de les observer. C'est de voir si au quotidien, comment ils vont acheter leurs vêtements, comment ils y font dans leur garde-robe, comment ils se regardent dans le miroir. Finalement, le narcissisme de l'adolescent est important et on a tendance à s'en détacher un petit peu. Ils ont leur chambre et leur miroir et les parents font plus tellement attention à ce qui se passe dans la chambre de l'enfant. Il faut y aller, il faut discuter avec eux et les observer.
Et puis, si on continue de parler un petit peu des limites, il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé, c'est le problème des modes. Il y a quelques années, 15 ans, 20 ans à peu près, on avait des femmes sur le même modèle. Comment vous, en tant que chirurgien esthétique, vous essayez de lutter contre ces modes-là, parce que ces modes-là ne peuvent pas s'adapter à tous les physiques ?
Très bonne remarque, parce que autrefois, par exemple, le petit nez à la parisienne, ou des seins très petits, était très à la mode, ou des lèvres banales. Et puis voilà venu le temps des seins plus voluptueux, des lèvres pulpeuses, et même maintenant, en ce qui concerne ce qu'on appelle la chirurgie intime, c'est l'apparence intime des jeunes filles qui est devenue une réalité sociale et économique. Ces phénomènes de mode sont liés à plein de facteurs, dont surtout le développement des téléréalités, de la télévision, des publicités. Mais en ce qui concerne les lèvres, la beauté des lèvres, par exemple, on a tendance à revenir au naturel, c'est-à-dire que de les augmenter un petit peu, de lutter contre les ridules, d'essayer d'équilibrer la lèvre du haut et du bas. Mais c'est fini, on ne va pas laisser des lèvres en entonnoir, les goûts surgonflés comme ça a été le cas, parce que c'est caricatural.
Et surtout qu'il y a des opérations qui sont irréversibles.
Oui, autrefois. Maintenant, heureusement, les produits qu'on injecte au niveau des lèvres sont réversibles parce que c'est de l'acide hyaluronique ou la propre graisse de la patiente. Je vous propose tout à l'heure de parler du lipofilling.
Eh bien, justement, on va le faire dans un instant. On se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre émission « C'est nouveau, ça m'intéresse » et nous parlons de chirurgie esthétique à travers cet ouvrage. « Chirurgie esthétique pour ou contre » paru aux éditions Flammarion et nous sommes en compagnie de son auteur. Il s'agit de Dr Vladimir Mitz qui est chirurgien spécialisé dans la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Alors docteur, les bienfaits de cette chirurgie esthétique, elle existe depuis longtemps, plus d'un siècle, cette médecine-là, et elle apporte beaucoup de bienfaits. Jusqu'où ça va, ces bienfaits ?
Alors, ils sont immenses parce qu'on parle d'enthousiasme de vivre. C'est vraiment le mot qui convient. Cela permet à un patient de retrouver une image de lui qui est valorisante. Je vais donner trois exemples. La jeune fille qui a un grand nez et pas de menton, qui est complexée. Elle est jolie, elle a de beaux yeux, mais quand même, ça lui plaît pas trop. Et voilà que de façon hyper naturelle, on prélève la bosse du nez, on la met par l'intérieur de la bouche dans le menton, on sent son profil, elle était mignonne, elle devient ravissante, son narcissisme à elle est satisfait et personne ne voit rien, les gens ne remarquent même pas, il suffit qu'elle change de coiffure pour nous dire « Oh, dis donc, ça t'a fait du bien ce petit voyage à Londres
!» Oui, tout simplement.
Deuxième exemple, une jeune fille qui n'a pas de poitrine, ou peu, qui est gênée parce que malheureusement, on ne peut pas prendre de la graisse chez elle pour la mettre dans les seins, technique que l'on fait quand il y a des réserves ailleurs. Mm-hmm. Il n'y a que les prothèses mammaires qui peuvent le faire. On essaye de passer par un endroit très caché, le creux de l'aisselle. La cicatrice ne se voit pas. Et par là, tout doucement, on fait une place et on introduit un implant mammaire qui maintenant est fiable pendant 15-20 ans et qui va lui redonner une poitrine absolument naturel, qui fait que même les radiologues, s'ils font une radiographie, se rendent même pas compte, ou le médecin de famille se rend même pas compte que c'est des seins artificiels. Et bien entendu, toute sa vie amoureuse est différente, pas parce que les hommes lui courent plus après, mais parce qu'elle a plus d'assurance. Mmh. J'avais fait un travail en demandant à 200 patientes de remplir un questionnaire en leur disant, sur différents items, avant, après une augmentation mammaire, mais finalement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eh bien, la majorité des réponses a été « j'ai gagné en assurance ». Et ça, c'est important dans la vie intime, mais aussi dans le travail, dans le quotidien. Troisième exemple, une femme qui a 50 ans, elle vient d'être quittée par son mari, elle est un peu marquée par son visage, et elle se dit « voilà, je voudrais refaire ma vie ». Eh bien, la rajeunir d'une façon douce, pas trop agressive, pas grave, pas une grosse opération, va lui rendre un tonus mais incroyable. C'est un peu comme si elle se prenait une douche. C'est une douche un peu agressive et onéreuse. Mais au oui, moins, elle dure. Oui, oui. Elle dure. C'est un peu comme si on retournait de quelques années dans le passé. Et pour cette femme, il y a un enthousiasme de vivre qui réapparaît. Et c'est quelque chose que nous, quand on le ressent, on est très heureux parce qu'on a pu engendrer cela et que finalement... on l'a laissé naturel, on n'a pas modifié cette femme.
Mmh. Avec toutes les interventions là que vous avez décrites, quelle est peut-être celle qui vous a le plus satisfait, vous, en tant que chirurgien esthétique dans votre carrière ?
Oh, ben, à chaque étape de ma carrière, il y a eu des opérations satisfaisantes, mais qu'il s'agisse au niveau de la chirurgie des mains ou la chirurgie du visage, peut-être le dernier progrès important qui a été fait s'appelle le lipofilling, parce que on n'avait pas de quoi remplir le corps humain avec un ciment naturel. S'il manquait, s'il y avait une cicatrice en creux, ou bien s'il y avait, par exemple, un sein qui était plus petit que l'autre côté, on n'osait pas prendre la graisse de la patiente elle-même pour la mettre là où il en manquait. Et bien finalement, ces techniques depuis 10 ans sont validées. On a commencé il y a 20 ans par l'utiliser pour reconstruire des seins après cancer ou pour compléter la reconstruction après la mise en place d'une prothèse. Et maintenant, quand une jeune fille a une culotte de cheval et elle n'a pas du tout de poitrine, on peut prélever cette graisse, il faut la travailler, si j'ose dire, pour qu'elle puisse être réinjectée. Mais elle n'est pas injectée comme si on injectait de la crème chantilly. On est obligé de faire un tunnel, de filtrer cette graisse dont les cellules sont la taille de petites graines de couscous, et puis on va les remettre en place une par une, comme si on greffait des grains de riz, pour augmenter le volume dans toutes les dimensions de son sein, avec des toutes petites cicatrices. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que d'ailleurs Ilouz, un chirurgien français, avait mis au point déjà par la liposuction. Il était, lui, avec Fournier, un autre chirurgien français, les premiers au monde à proposer cette reconstruction par sa propre graisse.
Oui, alors là, vous parlez de volume pour les seins. Est-ce que ça fonctionne aussi pour le visage? Parce que bien souvent, le vieillissement, c'est aussi la perte des volumes.
Oui, tout à fait. Ça fait partie maintenant des techniques les plus nouvelles qu'on rajoute après un lifting, c'est de redonner un visage un peu arrondi. Parce qu'une femme sur trois, après le vieillissement, maigrit de son visage. Elle se creuse, les orbites se creusent, les joues se creusent, la lèvre supérieure se creuse. Et donc, on peut utiliser des petits spaghettis de graisse, en quelque sorte, tout petits, très fins, un peu plus gros que des cheveux, mais pas beaucoup plus, que l'on va implanter au niveau du visage. Ce sont ses propres tissus. Et en plus, dans la graisse, il y a ce qu'on appelle des cellules souches. Ce sont des cellules embryonnaires, des cellules de jeunesse. Et on sait, par exemple, qu'après une radiothérapie du sein, une fois que la peau s'est rétractée un peu, la mise en place de ces cellules souches et de cette graisse va lui redonner un bien meilleur aspect et va la faire revivre plus longtemps et mieux.
Alors, vous parlez depuis le début de l'émission beaucoup de recherches. Hein. C'est un domaine qui est très dynamique, la chirurgie esthétique. Est-ce qu'il y a beaucoup encore de choses à découvrir dans le domaine ?
Ben oui, Léa, parce que le chirurgien esthétique, il opère de la tête aux pieds. Bon, moi, je ne fais pas de greffe de cheveux, mais c'est une spécialité où le champ est tellement vaste que nous avons à tous les étages de notre corps, à toutes les profondeurs, à découvrir des techniques nouvelles. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes chirurgiens, quand ils vont chercher une discipline, vont aller vers la chirurgie réparatrice et esthétique, les meilleurs d'entre eux, parce que c'est très innovant, parce qu'il faut avoir un bon esprit. Et c'est pas forcément pour l'argent. Maintenant, de toute façon, en France, ça devient très difficile. Vous savez que la chirurgie esthétique est taxée d'une TVA de 20%. Donc le corps est propriété de l'État à 20%.
Okay.
c'est sans contrepartie.
Je, on ne le savait pas, mais
sans contrepartie. Ouais. Ouais. Mais donc, ce sont des chirurgiens qui sont passionnés par cette chirurgie des formes et par l'innovation.
Oui, mais pourtant, c'est quand même intrusif. Et c'est là où je reviens sur la médecine esthétique de tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas plutôt... dans l'avenir, la médecine esthétique qui va prendre le pas sur la chirurgie esthétique?
Ben non, c'est comme dans l'habitation, vous pouvez me placer des tentes pour les réfugiés, oui, mais ils seraient beaucoup plus contents d'avoir un appartement en dur. Et si vous voulez, la médecine esthétique, c'est un peu un rafistolage, c'est une tente. Mmh. La chirurgie esthétique, c'est une construction, peut-être avec le bisturi,
durable, à vous
mais
pensez.
Qui est beaucoup plus durable et plus stable.
Mmh. Dans, alors donc ça c'est bien sûr pour l'avenir, c'est plutôt positif hein, votre vision de la chirurgie, mais comme je le disais c'est un peu intrusif. Est-ce que peut-être aussi le danger, on a le sentiment que peut-être la chirurgie esthétique c'est plus dangereux qu'une autre chirurgie, est-ce que c'est à tort ou à
non c'est vrai, c'est une chirurgie intrusive comme ouais. vous le dites justement, et donc il y a des risques, et dans mon livre j'essaye d'expliquer ce que nous, les chirurgiens, on n'ose pas dire des fois tout haut. On donne à la patiente avant une opération ou au patient, on leur donne plein de documents, des schémas, notre société a fourni des descriptifs, y compris les complications. Mais c'est très long à lire. Et quand on est en consultation, on n'ose pas trop parler de ces ratages, de ces complications. Mmh. Et donc, j'ai essayé dans mon livre d'attirer l'attention sur toutes ces possibilités de complications, mais en même temps de bien dire que dans rater, il y a rattraper, ouais. et que le chirurgien plasticien doit rattraper toutes ces petites erreurs, mais il y a parfois des erreurs irrattrapables. La vie perdue oui. est irrattrapable, et donc nous devons avoir une éthique de médecin, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre, on doit soigner.
Ça, c'est toute la difficulté de ce métier. Alors, la chirurgie esthétique pour ou contre, paru aux éditions Flammarion. Docteur, c'est de loin, ce n'est pas votre premier ouvrage. Hein. Vous en avez beaucoup écrit. Il fallait encore se prononcer pour ou contre aujourd'hui.
Oui, parce que ma spécialité est un peu en accusation. Ouais. Et je voudrais défendre sa noblesse, ses progrès, dont on parle peu, puisque la mode est au raté. Et je voudrais réhabiliter la chirurgie esthétique, qui est réparatrice.
Qu'est-ce qu'il y aura encore à écrire sur la chirurgie esthétique après cet ouvrage ?
Eh bien, j'y suis déjà presque. Ah, je pensais presque à un dictionnaire amoureux de la chirurgie esthétique.
Ah, et pourquoi pas ? Voilà. On sent votre passion et votre amour hein, de cette discipline. Merci beaucoup d'avoir plaisir. Été avec nous pendant cette émission. Vous nous avez fait apporté plus d'éclairage sur cette discipline, chirurgie esthétique pour ou contre, paru aux éditions Flammarion. Nous étions en compagnie de Dr Vladimir Mitz. On vous retrouve donc un dimanche sur deux. C'est le matin, ça pourrait vous plaire.
Dimanche prochain.
À très bientôt. Au revoir.
C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.